Dans l'actualité des idées aujourd'hui, aux frontières du masculin et du féminin, avec notre invité l'historien et essayiste Yvan Jablonka, professeur à l'Université Paris 13, l'auteur de Laetitia ou la fin des hommes et d'un essai sur le patriarcat, des hommes justes, qui paraît d'ailleurs en poche, publie au Seuil Un garçon comme vous et moi dans la collection de Maurice Hollander, la librairie du 21e siècle. C'est à partir de sa vie à lui qu'il écrit une autobiographie de genre, une socio-histoire de la garçonnité, tout en ayant conscience, comme il le reconnaît, que s'interroger sur sa masculinité, c'est déjà une démarche bien peu virile. Bonjour Yvan Jablonka.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Dès les premières lignes, on comprend que non, justement, vous n'étiez pas un garçon comme les autres. Mais s'interroger sur sa différence, celle que vous ressentez, celle que vous revendiquez ou celle que le regard des autres vous renvoie, permet aussi en creux d'interroger quoi ? La norme ?
Ça permet d'interroger la norme, bien sûr, mais aussi ma vie. J'ai essayé de faire, de produire de la connaissance sur moi, mais aussi sur nous. Et je fais le lien entre la première personne du singulier et la première personne du pluriel, parce que dès lors qu'on fait une socio-histoire de soi-même, on s'interroge sur les structures sociales à l'œuvre en nous. Et en quelque sorte, j'ai essayé de montrer le point commun, le point de contact entre mes structures intimes, personnelles, et les structures sociales. Et donc, on obtient cette socio-histoire qui permet de comprendre la construction du garçon en moi, c'est-à-dire en nous.
Parce que vous montrez notamment les points de contact, comme vous le dites si bien, entre votre histoire et celle d'une époque. Quels sont les grands mouvements de la fin du XXe siècle qui ont influencé cette construction de genre, ceux qui n'ont eu peut-être que peu d'effet sur vous? C'est aussi tout ça que vous racontez à travers votre histoire. Et on va y revenir tout de suite en son, puisque vous êtes né, vous, Yvan Jablonka, en 73, à l'époque des Lego et des Playmo, à l'époque de Récréa 2, de Goldorak et d'Anne Sylvestre, entre autres. Vous grandissez avec Goldman et Renault, avec le porno sur Canal et le sida aussi. Tout ça se mélange dans une double décennie, les années 70 et 80.
Écoutez bien.
Récréa 2.
Voici l'histoire de
Yvan Jablonka.
Ce mardi 23 octobre sera sans doute le premier jour de
Yvan Jablonka
qui prendra la parole en premier. C'est une véritable tempête.
Yvan Jablonka
sera reçu aujourd'hui à l'Élysée par le président Pompidou.
Voilà l'homme dont nous devons nous occuper.
Il avait les yeux clairs et la robe en velours. À côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil. La fin du jour.
Ah, ça va, putain. Vous avez déjà été amoureuse, non? Vous savez ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a à part l'amour? Qu'est-ce qu'on a dans la vie? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Les lendemains qui chantent? Le grand marché européen? On a que dalle. On n'a plus qu'à être amoureux comme des cons. Et vous savez très bien que c'est pire que tout. Aidez-moi, quoi.
Autolargue! Dégage, Alcor! Cause toujours, Actarus! Figure au point. Astéro H.
Placez-le, le capitaine français, qui va tirer ce pénalty qui est face au gardien allemand. Un ras de Schumacher, placez-le qui s'élance, qui frappe et qui marque.
Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils.
Je signale que ta fille fait une boum demain pour son anniversaire. Qu'elle se réjouit depuis des mois.
Mais nous allions oublier
Yvan Jablonka.
Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous.
Notre héros, joyeux et souriant.
Tout ça, vous l'avez vu, Yvan Jablonka, vous l'avez entendu, vous les avez regardés. Dans ce que vous venez là de retrouver, qu'est-ce qui vous touche le plus? Qu'est-ce qui fait remonter cette décennie, cet âge?
D'abord, je suis touché par cette espèce de medley qui est un petit peu la bande-son de mon enfance, de notre enfance. Je suis très touché parce qu'il y a à la fois des dessins animés, des films, des choses qui ont fait un petit peu le musée de ma vie, enfin le musée de mon enfance, et tous ces marqueurs d'enfance, et en l'occurrence de masculinité, sont en quelque sorte les Voilà, les dépositaires d'une tranche de ma vie. Alors moi, bien sûr, je fais partie de la génération Récréa 2 dans les années 80, avec les deux grands dessins animés phares de cette émission, que sont respectivement Goldorak et Candy. Et chacun aura reconnu, enfin chacun, les cadras et associés auront reconnu ces bandes son. Et c'est vrai que pour en arriver à la culture de genre et à la garçonnité qui est la mienne, on peut voir que pour Candy, c'était une construction plutôt de filles. Ça s'était fait pour les filles, bien que moi-même, je l'ai beaucoup regardé. Et inversement, Goldorak était fait pour les garçons. Alors, pour le résumer en deux petites phrases, Goldorak proposait à l'heure de la récré aux garçons un stage viril. Hein, rappelez-vous par exemple quand Goldorak dit, quand Actarus dit métamorphose ou alors astéro-H, voilà, avec cette espèce de pulsion virile qui renvoie à la force métallique et aux armes. Et inversement, la culture fille de Candy, c'était un peu d'astuce, d'espièglerie, et ça aussi, ça parlera à chacun qui a déjà vu ce générique et ce dessin animé. Mmh.
Vous dites tout ça avec beaucoup de sérieux, et c'est vrai que ça en a au fil de cette construction que vous racontez, et en même temps, il y a un côté Madeleine de Proust, hein, qu'on retrouve tous dans ces dessins animés. Vous citez aussi un film, celui d'Éric Rochant, Un monde sans pitié, qui a été pour le coup un grand succès de cinéma, et aussi un film extrêmement générationnel. Qu'est-ce qu'il dit de cette génération dont vous faites le portrait à travers vous, Yvan Jamblonka ?
J'ai été bouleversé par Un monde sans pitié, qui est sorti en 1989, donc j'étais en première. J'ai été bouleversé pour plusieurs raisons. La principale, je crois, c'est l'histoire d'amour entre Hippo, le glandeur céleste, et Nathalie, la bosseuse de Normal Sup. Alors, le paradoxe, c'est que moi, je m'assimilais à Hippo. J'avais l'impression que j'étais comme lui, un peu comme ça, un peu perdu, un peu dégingandé, follement dragueur. Alors qu'en fait, j'étais tout le contraire. Je bossais, j'étais un dragueur nul, j'étais très angoissé. Et si je ressemblais à quelqu'un, c'était plutôt à Nathalie, à cette jeune femme qu'il séduit. Et donc, il y avait comme ça cette espèce de renversement de genre. Je m'associais, je m'assimilais, je me comparais au garçon, alors qu'évidemment, je ressemblais à la fille. Et puis, Un monde sans pitié, c'est aussi le portrait d'une époque, c'est le portrait de la génération née dans les années 70, la mienne, qui a connu le grand marché européen, la crise, la fin des idéaux, l'effondrement du communisme, et ça, le deuil des utopies, et ça, ce film le rendait de manière bouleversante.
Je définis la genration, écrivez-vous, Yvan Jablonka, comme le processus par lequel le genre détermine une génération, la manière dont l'identité sexuée s'inscrit dans le temps des individus. Dans ce livre, j'ai étudié ma génération pour savoir quelle garçonnité a été prescrite aux jeunes mâles de la cohorte et réciproquement, comment ils l'ont comprise, interprétée, adoptée, parfois contredite ou rejetée. Ainsi ai-je mené mon enquête sur nous, garçons, sur le nous, garçons. Alors comment faites-vous ou comment avez-vous fait pour écrire sans vous tromper? Comment on fait pour se souvenir sans édulcorer? Vous êtes reparti d'une matière assez particulière, vos propres archives, c'est-à-dire votre journal intime, ce que vous écriviez à l'époque, et celles de vos parents qui ont gardé énormément de traces de cette jeunesse-là.
C'est vrai que le terme que vous avez cité, « genration », c'est un néologisme que je propose, qui se définirait de la manière suivante. Comment le genre, comment notre culture sexuée s'inscrit dans une génération. Une fois, par exemple, si on dit « je suis de la génération de la crise », par exemple, ça ne renvoie pas à une culture sexuée. En revanche, si moi, garçon, je dis « je collectionnais des albums Panini où il y avait dedans Platini, Giresse et Rocheteau », ou alors « je regardais Goldorak », ou alors « j'aimais bien faire des batailles de sabre laser comme dans la guerre des étoiles », là, on sent qu'il y a une culture garçon, à tort ou à raison, parce qu'évidemment beaucoup de filles se reconnaissaient aussi là-dedans, mais là on voit que on entre dans l'intersection du genre et de la génération. Alors pour ce qui est des sources, j'ai fait un petit peu mon métier, je vais vous faire une réponse déceptive parce que je suis historien, enfin un petit peu sociologue, mais surtout historien, et pour faire son travail, on a besoin de sources. Pour faire le travail d'historien, on a besoin de sources, c'est-à-dire que un romancier, lui ou elle, dit ce qu'il ou elle veut, parce que après tout, un romancier invente, mais un historien, lui, n'invente pas et ne dit pas ce qu'il veut, notamment dans mon cas. Et donc, j'avais besoin de sources, et ces sources, ce sont d'abord des souvenirs personnels, ce sont aussi les souvenirs des autres. J'ai interrogé mes parents, mon frère, beaucoup d'amis, des copains de collège, les souvenirs qu'ils avaient de moi, le portrait qu'ils étaient capables de dresser de moi-même. Et puis, j'ai aussi fait appel à des documents, dont certains sont reproduits dans le livre, des photos, des dessins, des objets. Et ça renvoie à la méthode des sciences sociales. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose, eh bien, on s'appuie sur des documents, des sources, ou pour le dire de manière un petit peu plus ontologique, des traces. Et je suis parti à la recherche des traces que le garçon disparu que je fus a laissées.
Et vous n'avez rien biaisé, rien réinterprété. Je pense à ça parce que vous ouvrez sur une anecdote. Ce livre, cette histoire, Je ne suis pas un mâle. Vous racontez qu'à la fin de votre année de terminale, l'un de vos camarades a concocté une sorte de bêtisier et vous étiez extrêmement bien classé au milieu de vos professeurs. Vous avez obtenu une médaille de bronze, la bêtise de bronze, pour avoir prononcé quelques formules que vous auriez peut-être du coup recensées vous-même dont vous auriez gardé trace. Et parmi elles, Je ne suis pas un mâle, ce qui a fait beaucoup rire vos camarades à l'époque, ou une autre encore, vous auriez dit à un camarade que vous aimiez sa présence masculine et racée. Alors, je suis aussi une enfant des années 70 et je ne peux pas m'imaginer avoir eu à 18 ans, donc au tournant des années 90, des mots comme celui-ci dans la bouche. Présence masculine et racée, vous auriez vraiment dit ça en 90?
Bien sûr, enfin, je l'ai même à la maison. Enfin, ce bêtisier, je l'ai encore. Donc ça, je n'ai fait que le recopier. Ensuite, vous avez raison de dire qu'il y a une interprétation. N'importe quel historien, n'importe quel sociologue interprète. Ça ne veut pas dire qu'il dit n'importe quoi. Ça veut dire que l'interprétation est en quelque sorte une hypothèse moulée dans la documentation et le réel. Alors là, par exemple, mon interprétation, c'est que j'étais un garçon à la sensibilité de fille, et ces choix dans le contexte de la terminale C du lycée Henri IV, milieu très compétitif, très masculin, très viril, eh bien, ces choix de genre, mon hypersensibilité, ce que je crois être une forme de douceur et de vulnérabilité, eh bien, c'était pas assimilé comme une culture de fille, mais comme une culture de gay, comme si j'avais été homosexuel. Il se trouve que je l'étais pas, mais enfin, peu importe, j'aurais pu l'être, peu importe. En tout cas, le fait que j'ai été inscrit au bêtisier de cette terminale indique un climat clairement homophobe. Je crois, au fond de moi, que j'étais pas gay. J'étais plutôt une fille-garçon ou un garçon-fille. Et puis, ce que je disais par ces autodérisions de genre, par ces formules évidemment un peu décalées, un peu ridicules, « je ne suis pas un mâle », il me faut m'imaginer à 17 ans clamer ça de manière un petit peu comme ça, pompeuse et donc ridicule. Je crois que ce que je disais à mes camarades, c'est « je suis pas comme vous, j'ai surtout pas envie d'être comme vous, je suis pas un matheux, je suis pas un polar, j'ai pas l'esprit de sérieux, je veux surtout pas être comme vous ». Et ce qui m'a sauvé, c'est que l'année suivante, je suis entré en prépa littéraire, milieu beaucoup plus « féminin », entre guillemets, parce qu'il y avait des filles, mais aussi parce que les lettres, les humanités sont traditionnellement renvoyées au féminin, là encore à tort ou à raison, et ça m'a sauvé. Je me suis soudain senti en conformité avec ce que j'étais intellectuellement, mais aussi avec ma culture de genre.
Et ça dit aussi que c'était une question qu'on posait peu ou qu'on formulait peu à voix haute à l'époque, alors qu'aujourd'hui c'est devenu une question centrale de nos sociétés. Pourquoi vous associez très vite, si vite, les figures de la virilité à la violence ?
Je n'associe pas virilité et violence, je ne crois pas le faire. Il y a une culture virile. Alors la culture virile, ça peut être par exemple jouer au foot, regarder un match de foot avec ses copains en buvant de la bière. Je l'ai fait, comme des millions de garçons, où on peut ajouter encore par les voitures, par les motos. Bon, bref, une culture virile, une sociabilité virile, qui est la mienne, enfin en partie, et qui ne me pose aucun problème du moment qu'elle exclut la misogynie, l'homophobie et l'agressivité. Ensuite, il y a la violence. La violence, c'est-à-dire des masculinités pathologiques, que j'ai décrite dans Laetitia, ou la fin des hommes, précisément, c'était le sous-titre. Mais je ne crois pas qu'il faille faire l'association entre la virilité et la violence. Ce serait faire injure à des millions, des milliards de braves mecs comme vous et moi, qui aiment bien, qui sont dans une sociabilité virile, mais qui ont aussi des aspects qu'on considère comme féminins. Et moi, quand je me penche sur ma garçonnité, il se trouve que j'étais beaucoup plus fille que garçon, par mon hypersensibilité maladive, par mon goût pour les effusions de cœur, par le fait que je préférais Candy à Goldorak, précisément. Et puis plus tard, quand je suis devenu jeune homme, j'ai toujours préféré le pouvoir des mots au pouvoir des muscles. Et puis ensuite, ça a été la poésie, l'opéra, etc. Et là encore, quand un garçon aime la poésie et l'opéra, au lieu de se demander quelle est sa masculinité, l'imbécile viril du coin le considère qu'il est homosexuel. Et ça renvoie à des stéréotypes de genre, à des injonctions sous lesquelles le masculin étouffe.
Stéréotypes qui se construisent ou qu'on impose très tôt. Hein. Vous revenez aussi sur ces stéréotypes-là, et notamment à travers l'école, puis le collège, le lycée, et par la suite l'université, sans oublier que vous êtes aussi de cette génération qui a encore fait son service militaire. Si je dis que l'école a fait de moi un homme, ce n'est pas par hâblerie, mais parce qu'elle a maçonné le mur porteur de ma masculinité. En quoi ? Comment vous avez transformé cette dureté de l'école française en dureté de soi ou en dureté de vous-même?
Alors d'abord, je dois dire que l'exigence scolaire dans ma famille était portée par ma mère. Ce qui est, je ne vais pas dire paradoxal, mais le fait que ce soit ma mère, une femme, qui était par ailleurs aussi professeure de français, latin et grec, lettres classiques comme on disait, le fait que ce soit elle qui ait porté cette très grande exigence scolaire, ça renvoie à ce paradoxe que ça m'a finalement masculinisé ou endurci, alors même que ça vient de ma maman. Je dirais que il y a une terrible dureté dans le système scolaire français que j'ai ressenti parce que j'ai fait mon année de CP aux États-Unis et c'était tout le contraire. Le CP aux États-Unis, c'était l'école de la bienveillance inspirée par le philosophe John Dewey, et c'était respect, intérêt pour l'autre, douceur. Et quand je suis rentré en France l'année suivante en CE1, ça a été tout le contraire. Dureté intellectuelle, je me souviens avoir reçu une fessée de la part d'un professeur de musique, et une très grande exigence qui correspondait à l'exigence maternelle. Et ça je dirais que ça m'a endurci, ça m'a aguerri. Vous voyez que j'utilise des métaphores viriles, presque martiales. J'en suis le produit, j'en souffre. C'est ma vie, je suis fait comme ça, et effectivement, quand je dis le mur porteur de ma masculinité, je dirais, j'emploie ce terme de maçonnerie, de dureté, de briques, de béton. Je le dis sans forfanterie, parce qu'au fond, je crois que j'en souffre.
Aujourd'hui encore ?
Oui, oui, parce que disons que ça fait peser sur mes épaules des ambitions qui sont des ambitions familiales et qui sont devenues les miennes. En quelque sorte, quand vous êtes le petit-fils de déporté d'Auschwitz, vous n'avez pas intérêt à rater votre vie, pour le dire de manière un petit peu humoristique, mais ça renvoie à des choses un petit peu tristes au fond. Et c'est une espèce d'ambition familiale qui est devenue la mienne et qui est un poids. Mais enfin, voilà, je vis avec, et puis voilà, on se soigne comme on peut.
En écrivant des livres, par exemple.
C'est ça, en écrivant des livres, j'écris des livres, et c'est une manière pour moi de me sauver de moi-même, en quelque sorte.
Conjuguer le personnel, le social et l'historique pour questionner les codes de la culture sexuée, c'est ce que vous faites, Yvon Jablonka, avec ce livre, Un garçon comme vous et moi aussi. Et ça commence très tôt, vous l'évoquiez, à l'école, avec les premiers stéréotypes. Puis vient le collège. Dans mes années collège, écrivez-vous, j'ai été tiraillée entre trois masculinités de domination. Celle des forts en classe, tout en brutalité verbale et sociale. Celle des forts en drague, tout en prestige vestimentaire et en magnétisme. Celle des forts en transgression, capable d'outrepasser les limites. Quant à moi, je n'en possédais aucune. Comment vous faites dans ces moments-là pour donner le change, alors ?
Oh, vous savez, je n'avais que 12 ou 15 ans. La question n'est pas de donner le change. La question est de faire ce qu'on peut avec ce qu'on est. Et je me souviens, par exemple, un de ceux qui m'impressionnait beaucoup, mon copain Jean, qui était donc au collège avec moi, lui, c'était la masculinité de de drague, de succès. C'était la garçonnité dans ce qu'elle avait de plus solaire, de plus attractif, de plus attrayant. Et moi, je me sentais à la fois banal et moche. Et quand j'ai revu Jean récemment pour ce livre, il m'a dit « Bah écoute, c'est simple, toi, tu étais une non-menace ». Alors, cette expression m'a paru extraordinaire, je pense qu'il a raison. J'étais une non-menace pour le petit mâle séducteur qu'il était. J'étais, je sais pas, je pense que j'étais couleur muraille, je savais pas comment m'y prendre. Et puis quelques années plus tard, j'ai essayé de draguer les filles en leur écrivant des poèmes. Le résultat a été désastreux. Donc, je veux pas dire qu'il n'y a pas un modèle de garçonnité. C'est simplement que moi, j'ai essayé de me frayer un chemin à travers toutes ces façons d'être garçon. Et puis c'est comme ça qu'on finit par être ce qu'on devient. On est garçon et puis on devient homme, pour paraphraser une célèbre phrase.
Et alors justement, à quel âge, quand devenez-vous un homme? L'âge d'homme, vous empruntez à Michel Léris le titre d'un de ses livres pour l'un de vos chapitres. « Je viens d'avoir 34 ans, la moitié de la vie », écrivait Michel Léris. Quand est-ce que pour vous, ce passage-là se fait? Quand devenez-vous homme?
Bah écoutez, je vais vous faire une réponse un petit peu d'abord physique, biologique. Je me suis rasé la moustache à l'âge de 14 ans. Bon ben voilà, dans la vie d'un garçon, ça compte. Et peut-être que ce jour-là, je me suis senti moins garçon et plus homme. Mais je comprends bien que votre question est davantage métaphorique ou sociale. Et là, je dirais qu'il n'y a pas de réponse toute faite, parce que devenir garçon puis homme, c'est pas un phénomène intime, c'est pas psychologique en fait. C'est ça une des grandes leçons de la socio-histoire que j'ai essayé de faire, c'est que devenir un garçon, c'est un phénomène collectif et social. Et en ce sens, je peux pas répondre de manière psychologique. En fait, je ne peux répondre qu'avec des collectifs. Ceux qui m'ont transformé en garçon, en ado, en jeune homme, puis en homme, ben ce sont successivement la famille, l'école, les groupes de pères, le club de foot, la caserne, puisque comme vous le disiez, je suis un des derniers garçons de ma génération à avoir fait son service militaire. Et puis tout ça, devenir un homme, ça renvoie à des faits sociaux, des faits sociaux que j'ai essayé d'analyser, qui vont du foot aux jeux vidéo, en passant par des objets comme le Rubik's Cube ou des dessins animés comme Goldorak. Et alors évidemment, le portrait que je fais est un portrait intime, mais ce qui m'a peut-être le plus intéressé, c'est le caractère structural de ce portrait. Et c'est pour ça que c'est pas tant moi garçon que nous garçons. Je dirais que à 25 ans, ça y est, les dés en sont jetés. Je suis un petit peu devenu l'homme que je suis resté, c'est-à-dire les grands thèmes de ma vie, ce sera lecture, sensibilité, vulnérabilité, vie intellectuelle. Et puis ensuite, après, il y a les grandes joies de la vie d'homme, rencontrer celle qui est devenue ma femme, et puis avoir trois filles. Voilà, ça, c'est des choses de la vie d'un homme.
Ça se construit aussi dans le regard des autres. Cet âge d'homme, Michel Léris, il est revenu sur ce temps, cet âge qu'il avait, lui, daté, identifié autour de 35 ans. Pour lui, ça se confond avec la naissance de sa vocation d'écrivain. Il est revenu aussi sur cet exercice autobiographique, et vous signez là, on le disait, Yvan Jablonka, avec un garçon comme vous et moi au seuil, une autobiographie de genre. Il compare, lui, cette description, ce récit autobiographique de son intimité à la pratique de la corrida, à la place du torero dans une corrida. Vous comparez l'écriture à la natation. Vous dites que c'est une manière d'être en mouvement, de ne pas couler. Ça vous semble plus proche?
Oui, c'est vrai. Pour moi, l'écriture, c'est pas un salut, c'est pas un métier, c'est pas une activité. Ça correspondrait pas vraiment à ce que je ressens. Pour moi, c'est un sport. C'est un sport, c'est quelque chose qui me rend plus vivant, qui me permet d'être en mouvement. Alors, si vraiment ça avait été mon sport préféré, je dirais que c'est le foot. Le problème, c'est que je suis pas capable d'écrire en équipe. Et le foot, comme chacun sait, se joue à 11. Je suis pas capable d'écrire un livre à 11. Et donc, le sport individuel qui est le mien et que j'ai élu, c'est la natation. Aller vite dans l'eau, traverser son élément, ne pas être immobile, ne pas couler. Et c'est vrai que pour moi, l'écriture, c'est comme le crawl, c'est une manière de trancher son élément.
Un garçon comme vous et moi, c'est Yvan Jablonka et il est notre invité jusqu'à 13h30.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Je pense que tout historien devrait accepter l'idée que tout est historique, et qu'il n'y a donc rien d'éternel, et que s'il y a de l'éternel, c'est pour des raisons historiques. Bon, c'est un paradoxe qui est au centre de toute ma réflexion. Une des questions est de savoir quelles sont les conditions historiques qui font que des structures cognitives comme celles qui vous permettent d'opposer le masculin et le féminin dans tous les domaines de la pratique se perpétuent de manière transhistorique. Bon, ça, je pense, c'est une question importante. Et il me semble que l'analyse abstraite conduit à déplacer à la fois le centre des terrains de recherche et les centres, dans une certaine mesure, de lutte politique. Bon, voilà, et c'est pourquoi ce détour par le cognitif, par l'abstrait, le théorique, ce détour me paraît très important. Et il n'a rien d'idéaliste. Enfin, j'insiste beaucoup sur le fait que la faiblesse historique alors de toutes les sciences sociales, c'est de n'avoir pas construit un matérialisme des formes symboliques.
Voilà, quand les structures historiques qui opposent féminin et masculin se perpétuent, Yvan Jablonka, la domination masculine, quels en sont les signes extérieurs, la première prise de conscience? Il faut revenir, après ces mots de Pierre Bourdieu, peut-être aussi sur la place que l'université a pris dans votre vie, dans la manière dont vous avez aussi eu de concevoir votre masculinité.
Disons que dans ce que j'appellerais mon moi-homme, ma manière d'être un homme, je dirais qu'il y a deux types de masculinité. Il y a une masculinité de domination, à laquelle je crois pas pouvoir échapper. Je suis un homme blanc, hétéro, de milieu aisé, prof de fac, j'ai accès à la sphère publique. Enfin, tout ça, ça renvoie à des formes de pouvoir, et même peut-être de privilèges. J'en suis parfaitement conscient, même si au moment même où je le dis, j'en profite. Il y a une deuxième masculinité en moi, c'est ce que j'appellerais une masculinité dissidente, qui renvoie à mon malaise dans le masculin, à cette hypersensibilité que j'évoquais, à ce goût pour les aveux, les confidences, bref. Et cette masculinité dissidente se lie dans les choix que j'ai faits à l'âge d'homme. C'est pour ça que je souhaite sortir du psychologique et de l'intime qui ne m'intéresse pas directement. Par exemple, le fait de travailler sur les enfants abandonnés, j'ai travaillé pendant presque une dizaine d'années sur les enfants placés, abandonnés, etc. Ça, c'est un choix historien qui n'est pas neutre. Parce que j'aurais pu travailler sur De Gaulle, Napoléon, la Première Guerre mondiale, les révolutions, l'État, bref, on sentait bien que ça, c'était un choix beaucoup plus masculin qui renvoyait à la grande histoire et les grands hommes et les hauts faits, etc. Moi, j'ai choisi de travailler sur les anonymes, les fragiles, ceux qui n'ont compté pour personne, depuis les enfants abandonnés jusqu'à Laetitia et sa sœur Jessica, des jeunes femmes, et en l'occurrence Laetitia, qui n'a compté pour rien à part pour avoir été victime d'un féminicide en 2011, c'est-à-dire il y a tout juste 10 ans. Et ça, ce sont des choix de masculinité, des choix en quelque sorte illégitimes pour le genre qui est le mien. Et puis, j'ai publié il y a quelque temps un livre qui s'appelle « Des hommes justes », dans lequel j'essaye de concilier masculin, féminisme et justice de genre. Je me propose certainement pas comme modèle, mais en tout cas, j'ai essayé en tant que chercheur de faire une réflexion sur ce thème. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont essayé de briser le silence épais dans lequel leurs congénères se sont retranchés après MeToo. J'en suis pas fier, je ne mérite pas une médaille, mais je dis simplement que c'était un parti pris de masculinité.
J'ai été un petit garçon, écolier, adolescent, lycéen, jeune homme, étudiant, soldat, thésard, sans éprouver le besoin de m'interroger sur la masculinité, la mienne et celle des autres. L'oubli est réparé. Faire de l'histoire, c'est aussi se poser la question, les questions que l'on ne se posait pas, introduire des mots qui n'avaient alors aucune signification, écrivez-vous Yvan Jablonka. Vous montrez donc comment ce questionnement de genre a aussi nourri et éclairé votre pratique d'historien, à la fois vos choix de sujets, l'histoire que vous aimez écrire et raconter, la pluridisciplinarité aussi de vos recherches. Votre relation peut-être aussi à l'autorité et à la transmission. Quel professeur êtes-vous ?
Écoutez, c'est difficile à dire. J'essaye de produire de la connaissance et de la diffuser. C'est-à-dire que voilà, j'essaye d'expliquer avec modestie à mes étudiants ce que je crois être l'histoire ou la sociologie. La période est très difficile puisque maintenant beaucoup de cours se font par visio et c'est terrible. Et tous mes collègues depuis la maternelle jusqu'à l'université savent très bien ce que je veux dire. On est dans une situation professionnelle de souffrance, je crois. Et les étudiants aussi, d'ailleurs les étudiants surtout. En tout cas, en tant que chercheur, je me suis fixé plusieurs objectifs. J'ai essayé de moderniser les sciences sociales en quelque sorte en proposant des objets nouveaux, un camping-car, Laetitia Perret ou aujourd'hui ma garçonnité. Et puis j'ai essayé d'inventer des formes nouvelles, en tout cas des formes qui correspondent à l'objet que je me suis proposé. C'est pour ça que je crois que l'histoire est une littérature contemporaine, ou pour le dire autrement, à chaque objet de sciences sociales, sa forme narrative et littéraire.
Alors justement, c'est intéressant parce que dans Filles, paru à la rentrée dernière, Camille Laurence, qui est romancière, raconte ce que c'est que de naître fille dans une famille de notables de province dans les années 50, puis de devenir femme à Paris. Elle a choisi, elle, la forme du roman pour se dévoiler. Vous choisissez, vous, une forme au croisement de l'autobiographie, de l'enquête littéraire et de la socio-histoire. Un garçon un peu trop sage, ça c'est la question qu'elle se pose dans sa chronique littéraire du Monde, Camille Laurence, après avoir lu votre livre. Elle dresse pas le parallèle, d'ailleurs, entre vous et elle. Elle se demande si... Plutôt si à force de vouloir faire œuvre littéraire universelle, de raconter tous les autres en vous racontant, elle se demande si vous ne brouillez pas un peu la lecture. Est-ce qu'on peut vraiment être son propre sujet d'étude, Yvan Jablonka ?
C'est le pari. Enfin, je respecte la chronique de Camille Laurence.
C'est le pari de quoi ? De l'ambiguïté, de l'hybridité des genres, de voir ça comme une richesse là encore ? Dans la vie comme dans les livres ?
Je crois d'abord que les livres appartiennent aux lecteurs et aux lectrices. C'est pour ça que j'ai pas grand-chose à ajouter, parce que chaque lecteur, chaque lectrice a la liberté absolue de faire son œuvre à partir de l'œuvre qu'il ou elle lit. Je crois que Sartre disait un petit peu ça dans un ouvrage célèbre. Quant à moi, brouiller les genres, c'est précisément ce que j'essaye de faire. Donc on peut me le reprocher, et je comprends que on trouve ça un peu bizarre, etc. Mais c'est précisément ce que j'essaye de faire. C'est précisément associer les sciences sociales, le raisonnement de sciences sociales, au littéraire. Ça ne veut pas dire que je fais de la fiction. Je ne fais pas du tout du roman. D'ailleurs, j'en ai fait un il y a 15 ans, et pour l'instant, j'ai plus du tout envie d'en refaire. Je ne suis pas un romancier, ou peut-être en tout cas un piètre romancier. Ce que j'essaye de faire, c'est de mettre en œuvre dans ma recherche de sciences sociales, des formes, des constructions narratives, une certaine atmosphère, un rythme qui renvoie à une littérature. Quelle littérature ? Une littérature pour comprendre le monde.
Que faire des hommes ? C'est aussi une question que vous soulevez dans le nouveau numéro de la revue Esprit, Femmes en mouvement. Il vient de paraître, c'est le numéro de janvier-février. Pourquoi politiser le masculin ? Vous y répondez. Merci beaucoup à vous, Yvan Jablonka, d'avoir été avec nous à l'occasion de la parution de Un garçon, comme vous et moi, au Seuil, dans la collection La librairie du 21e siècle.
Énorme
merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de la Grande Table des idées, Jean Bulot et Laura Dutèche-Pérez, la Grande Table Culture, Oriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Cathy Renaud et de Madeleine Martineux. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau et Félix Levaché. À la technique, Clément Daté. Je vous souhaite un très bel après-midi à tous sur France Culture.